Pauline Pucciano, Paradict, 13 septembre 2071. Attaque multiple au couteau à Hanovre, 17 victimes dont 9 enfants. Naître ou ne pas naître délicat, notre enquête scientifique et sociale. Un vaccin enfin trouvé contre le virus SH-772. À l'intérieur de la roulotte, de minuscules grenouilles étaient en train de dévorer les hannetons échoués au sol. D'autres insectes plus gros vrombissaient dans l'air suffocant. Le cadavre du délicat se décomposait trop vite avec cette chaleur. Des vers de Rimbaud surgirent dans la mémoire de l'inspecteur Alvar Costa. Ah, noir corset velu des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruelles. D'un air particulièrement las, il se passa une pommade mentholée sur les narines et procéda à un examen rapide des lieux. La brigade scientifique ne se déplacerait probablement pas pour la mort d'un délicat chez les noms. La mort était suspecte, bien sûr, mais l'homicide n'était pas prouvé. Si quelqu'un devait rendre justice à ce pauvre type, ce serait lui, Alvar, et en solo. C'était entre lui, le Maccabé, les grenouilles et sa conscience. Il n'y aurait aucun autre témoin de sa lâcheté ou de son courage. Le délicat s'appelait Marek Escanza. Son corps d'un blanc laiteux avait pris une teinte spectrale, mais Costa savait que la mort n'avait fait qu'accentuer une pâleur d'origine. Les délicats naissaient avec cette peau transparente, à travers laquelle on pouvait deviner les formes sombres des organes. Certains ne supportaient pas la lumière et vivaient reclus derrière des volets hermétiques ou bien sortaient la nuit. Les surnoms qu'on leur donnait n'avaient rien d'original. Ils étaient les larves, les vampires, les albinos, parfois tout simplement les blancs. La mortalité des bébés délicats était un sujet d'étude très sérieux de la World Administration, parce qu'on n'arrivait pas à faire la part entre les décès naturels et les actes de maltraitance ou d'infanticide. Mais celui-ci, dans son malheur, avait eu de la chance, parce qu'il avait atteint l'âge adulte. Il disposait d'une roulotte personnelle, plutôt correctement aménagée, et portait des vêtements princiers. Allongé sur son lit dans une position fœtale, les cheveux clairsemés comme ceux d'un grand vieillard, il devait avoir une trentaine d'années. Alvar vérifia l'information sur son ordinateur mobile. La date de naissance, 2049, lui donnait 32 ans. Marek Escanza était inconnu des services de police et était déclaré sur le foyer fiscal de ses parents. Il n'y avait pas de traces de lutte dans la roulotte, mais quelque chose dans l'attitude du mort dérangeait Alvar, sans qu'il pût dire exactement quoi. Ce n'était pas le repli sur soi d'un malade souffrant de lésions internes. C'était plutôt le repli sur soi d'une victime qui voit sa mort venir de l'extérieur. Cela lui rappelait les formes pétrifiées de Pompéi. La conscience de la mort qui avance était imprimée dans les gestes, dans un langage humain universel et poignant. Marek Escanza avait vu sa mort arriver, et il avait crispé les paupières pour ne plus la voir, et rabattu sa tête et ses genoux, comme pour ne lui donner aucune prise. Mais cela n'avait pas suffi. Alvar Costa encaissa, une fois de plus, toute la terreur figée dans une scène de crime. C'était une sensation fugitive, mais qu'il reconnaissait entre mille, et personne ne lui ferait croire qu'il s'agissait d'une mort naturelle. Après avoir essuyé son visage où la sueur commençait à perler, il versa dans sa paume gauche une giclée de protection stérile et se frotta les mains. Le produit durcit presque instantanément et constitua une pellicule intelligente. Ses gants seraient capables de prélever des micro-organismes, des fibres, des empreintes digitales, des résidus chimiques. Il retourna le cadavre et constata un grand nombre d'hématomes sur le corps translucide. Cela ne voulait pas dire grand-chose. Les délicats étaient presque tous hémophiles et leurs plaies et leurs contusions pouvaient traîner pendant des années. Un ordinateur mobile ordinaire était posé sur le lit. Costa l'alluma rapidement pour vérifier la page d'accueil qui portait le nom de la victime et le rangea parmi les pièces à conviction. Marek Escanza avait probablement passé beaucoup de temps dans le monde virtuel, où son corps déliquescent ne pouvait pas le déranger. Il n'y avait pas de démangeaisons, ni de saignements, ni de brûlures intestines dans le monde virtuel. Les délicats avaient tendance à y élire domicile. La roulotte à la mode des noms était décorée avec soin. Sur le mur numérique, une œuvre d'art que Costa ne connaissait pas, mais qu'il estima de qualité, était affiché. Il s'agissait d'un tableau animé, probablement issu du mouvement de l'abstraction spatiale qui faisait un tabac quelques années auparavant. Une galaxie spiralaire tournait, très lentement, dans des vapeurs nébuleuses. À côté, des photographies fixes et mobiles, pour la plupart de stars de cinéma de toutes les époques. Aucune photographie personnelle, aucun selfie bien sûr. Les délicats regardaient leur corps aussi peu que possible. La garde-robe dans l'armoire intégrée était 10 fois plus riche que la sienne propre. Les vêtements colorés, damassés, lamés, brocardés, étalaient leur magnificence silencieuse. Cela n'était pas rare chez les nobles qui aimaient porter leur richesse sur eux. Quel effet ces atours faisaient-ils sur le corps dégingandé et blafard de Marek? La violente odeur de menthe commençait à s'estomper, et Alvar Costa ressentit le besoin de prendre l'air. Il passa sur le corps un spray cryogénique, retira ses gants et les conserva précieusement dans un sachet réglementaire. En se pressant dehors, il sentit, pour la 3e fois de la journée, le corps d'une petite grenouille écrasée par sa chaussure. Il devenait presque impossible de ne pas marcher sur ces bestioles, tant elles étaient nombreuses. Et lorsque le soleil se couchait sur la banlieue, leur chant étrange était si fort qu'il couvrait presque tous les bruits humains. La caravane était arrêtée depuis le matin, et les nobles, patients, s'étaient installés. Costa admirait la façon dont cette communauté s'organisait au jour le jour pour surmonter les aléas de la route. En 1 heure à peine, tout un petit village surgissait des roulottes, avec ses allées, ses voisinages et ses commodités. Une tempête, une mort, une alerte attentat, une consigne gouvernementale, un besoin de ravitaillement, tous les prétextes se valaient, tous les lieux se valaient. La destination n'importait pas plus que la vitesse, seul comptait le mouvement, être sur la route, en partance. La roulotte de Escanza, à laquelle il n'avait pas prêté attention tout à l'heure, était, comme toutes les autres, décorée comme une arcane de tarot. Des couleurs vives étaient appliquées de manière naïve, autour de formes fantastiques. Châteaux, elfes et animaux disparus en ornaient les surfaces recouvertes d'un plaquage de bois. Il en émanait une magie de pacotille, celle du théâtre et des illusions. Alvar, en s'approchant, prit plusieurs photos de détails. Un personnage blanc et presque transparent, minuscule et toujours coiffé d'une couronne, apparaissait dans chaque dessin comme une sorte de signature blafarde. Les hommes qui traînaient autour de la roulotte le laissaient faire, mais il semblait nerveux. Costa lui-même était nerveux d'ailleurs, comme tout un chacun à proximité d'un cadavre. « Où est le patron ?» demanda Costa à l'un des types qui le regardait. « La tente bleue, » répondit-il. « Vous avez des informations sur la mort de Marek Escanza ?»« Il ne sortait pas beaucoup de sa roulotte, » dit l'homme en secouant la tête. « Ses parents sont dans la roulotte verte, » ajouta un autre. « Peut-être qu'ils pourront vous aider ?» La tente bleue, la roulotte verte. La vie semblait si simple sur la route, si locale. Ce n'était pas la première fois que Costa était appelé sur la route pour régler les papiers d'un décès. Mais cela était suffisamment rare pour qu'il se sente plus éveillé que d'habitude. Les hommes tiraient sur des pipes électroniques et leur panache de fumée se perdait dans le fog du Grand Paris. Sur les berges de la route, ce devait être la RN7 à ce niveau, on devinait à travers le brouillard la City, qui s'étendait et s'élevait, labyrinthe de verre, de métal et de béton ultra connectés. Le fog s'était-il épaissi depuis tout à l'heure? Il semblait à Costa que la route se trouvait au milieu de nulle part, dans un entre-monde à moitié irréel. La roulotte verte était plus proche que la tente bleue, et Costa décida d'y faire un saut. Il aperçut des jeunes filles vêtues de rouge qui s'enfuirent à son approche. Une vieille femme était occupée à réparer une voile solaire sous l'œil vif d'un mioche silencieux. Costa se gorgeait de tous les détails, et les réflexions fusaient dans son esprit. Il y avait moins de vieillards ici que dans la City, peut-être parce que les conditions de vie étaient plus dures, et la natalité était plus forte. Il se rappelait vaguement les chiffres de la WA concernant les données démographiques des nobles. On estimait à 20% la proportion de naissances non déclarées à l'état civil. Pour les morts, le chiffre montait à presque 50%. Pourquoi le patron l'avait-il appelé aujourd'hui pour Marek Escanza? Peut-être à cause de la réglementation sur le respect des délicats, qui pouvait lui coûter sa caravane s'il était convaincu de discrimination. Peut-être parce qu'il avait de toute façon l'intention de s'arrêter à cet endroit. Les parents Escanza n'étaient pas des délicats. Ces derniers étant quasiment stériles, ils apparaissaient au hasard de la génétique. Leur roulotte, peinte aux couleurs d'une forêt tropicale à la flore luxuriante, était imprégné d'un patchouli entêtant. La mère, qui portait un kimono fleuri, avait les yeux gonflés et le visage défait. Le père, sombre, avait un casque sur la tête et écoutait peut-être de la musique. Ils ne parurent pas surpris quand Costa pénétra chez eux. Son uniforme de la police globale devait pourtant être une denrée rare. « Vous allez retrouver qui a fait ça ?» demanda la mère sans conviction et sans même dire bonjour. « Vous pensez qu'il s'agit d'un homicide ?»« Marek n'était pas malade, » dit la mère. « Il avait une tension stable, aucune infection, rien. » Le père grommela une phrase incompréhensible. « Vous ne partagez pas l'avis de votre femme ?»« Les délicats, ça crève pour un oui ou pour un non. Je lui ai toujours dit, mais elle veut pas m'écouter. » »« Ils ne crèvent pas plus que toi et moi pour un oui ou pour un non. Ils ont un système immunitaire déficient et ils doivent se protéger. Mais Marek était très prudent. » « La mort, elle s'en fout qu'on soit prudent, » dit le père d'un air buté. « T'es payé pour le savoir. » La mère, à l'évocation de la mort, fit les cornes avec ses doigts machinalement. Costa se souvint que les noms avaient la réputation d'être superstitieux. « Il n'y a rien eu d'anormal, aucun présage ?» Les deux époux se regardèrent. « Les présages, ça vous regarde pas, » dit le père fermé. « Vous avez tous les deux été surpris par sa mort. » Le père répondit quelque chose dans une langue que Costa ne connaissait pas. « De quoi Marek vivait-il ? » insista l'inspecteur. « C'est une question qu'on ne pose pas sur la route, » dit le père. « Il gagnait un peu d'argent sur Internet, » répondit vivement la mère. « Comment ?» Le père, de plus en plus agressif, prononça à nouveau une phrase dans sa langue, et Alvar comprit qu'il s'agissait d'une insulte ou d'une malédiction. « Il a raison, » dit la mère, « c'est des questions qu'on ne pose pas ici, c'est faire offense. »« Vous voulez dire que vous ne savez pas de quoi vivait votre propre fils ?»« C'est ce qu'elle veut dire et c'est ce qu'elle dit, » aboya le père. « Bien, je vous présente toutes mes condoléances. » Il se retourna pour partir, mais la mère, prestement, lui attrapa le bras. Ce contact le mit mal à l'aise, et il eut un mouvement de recul involontaire. Dans la City, les inconnus ne vous touchaient pas, jamais. C'était une règle intangible. « Et le corps ?» demanda-t-elle. Alvar n'avait pas décidé s'il allait classer l'affaire comme mort naturelle ou l'instruire comme homicide. « Il est possible que nous le conservions un moment si nous ouvrons une enquête. Vous voudriez en disposer ?» Le père eut un rictus écœuré. « Qu'est-ce que vous croyez à la City ? Qu'on est des animaux et qu'on s'occupe pas de nos morts ?»« Loin de moi cette idée, monsieur, » dit Alvar très froidement. « Je vous demandais simplement ce que vous souhaitiez en faire afin que nous puissions plus facilement accéder à vos souhaits. »« Nous voudrions l'incinérer, » dit la mère avec les yeux mouillés. « Nous voudrions conserver son urne. »« Bien sûr, » dit Alvar. « Je vous ferai parvenir la décision administrative dès que possible. » L'homme ricana. « La décision administrative ! La décision administrative ! Et qui c'est qui la prend, la décision administrative ? C'est pas vous ?»« Si, en partie. »« Alors pourquoi vous ne dites pas « ma décision » ?» Costa affronta un court instant le regard de cet homme qu'il ne connaissait pas et qui nourrissait à son égard tant de haine. « Je ne sais pas pourquoi je ne dis pas « ma décision ». C'est une habitude, je suppose. Je vais m'entretenir avec le patron, je vous verrai tout à l'heure. »« c'est ça. » « Du balai, la flicaille !» Alvar Costa ouvrit la bouche pour répondre, puis il haussa les épaules et ressortit. Le brouillard, décidément, avait épaissi, peut-être parce que le vent était tombé brutalement. La chaleur ne descendait pas et semblait tout faire fondre de l'intérieur. La tente bleue ressemblait à une tente d'empereur romain, avec des dorures et des glands qui pendaient absurdement dédrapés. Son intérieur était meublé comme un palais, vaste et étonnamment frais. Un homme puissant, en bras de chemise, avec de grosses bagues voyantes, était en train de travailler sur un ordinateur mobile. Cette modernité contrastait avec le bric-à-brac impressionnant qui s'entassait tout autour. Le patron rapportait-il un objet de chaque lieu traversé, comme une sorte de trophée ? « C'est vous le patron de cette caravane ?» demanda Costa en entrant. « On dirait, » dit l'homme sans lever les yeux. « Vers quelle destination avancez-vous ? » « Sainte-Marie-de-la-Mer. » « Qu'allez-vous faire là-bas ? » « Respecter la tradition et rencontrer d'autres caravanes. » « Qu'y a-t-il au bout de la route ?»« Il n'y a pas de bout à la route. » « Quant au Sainte-Marie, il faudrait que vous veniez voir par vous-même. Ça ne se décrit pas. » « Je suis l'inspecteur chargé de la mort de Marek Escanza. » chargé de la mort. Ça fait un peu employer des pompes funèbres. Ou bien tueur à gage. » Alvar Costa hésita entre l'amusement et l'agacement. « Oui, enfin, façon de parler. » « La façon de parler a une importance extrême sur la route. Vous ne le saviez pas ?»«
Je commence à m'en rendre compte. » »«
Un faux mot et vous êtes mort. C'est un proverbe ici. » »«
Un faux mot ?»«
Comme un faux pas. Un faux pas verbal. » »«
Ça ressemble au genre de truc que je fais plus souvent qu'à mon tour. » »«
Eh bien, mon conseil, ne vous attardez pas ici. »
Le patron cessa enfin ce qu'il était en train de faire sur son ordinateur et considéra Alvar Costa avant de se lever pour lui serrer la main.
« Vous n'êtes pas très sûr de vous, » fit-il, sur le ton de la constatation neutre.
Alvar Costa s'autorisa un petit rire.
« Je suis sûr de ce que je fais, c'est déjà ça, et je suis sûr de ne pas être là pour parler de mes problèmes de confiance en moi, mais pour vous poser des questions, à vous, sur la mort suspecte d'un délicat dans votre caravane. »
Le patron lui donna une petite claque sur l'épaule, en souriant d'un air approbateur.
Costa réprima le mouvement de recul que ce contact lui causa. Il supposait que ce geste exprimait une forme d'encouragement. « Vous auriez dû commencer par là, » dit le patron à mi-voix. « Ne jamais perdre le contrôle de la conversation. » « Précisément. Cela arrive souvent qu'un délicat se fasse descendre tranquillement dans sa roulotte ?» Le patron inspira profondément. « Tout d'abord, nous n'avons pas beaucoup de délicats dans la caravane. Avec Marek, il n'y en avait que trois, dont un assez âgé qui ne sort quasiment plus. Et pour répondre plus directement à votre question, non, cela n'arrive jamais. »
Marek Escanza était mêlé à des affaires, des conflits, il avait de l'argent.
Le patron prit un air philosophe.
« Qui d'entre nous n'est pas mêlé à des affaires ?
Que faisait-il ?
Il était très discret. » Mais il se rendait régulièrement dans la city la nuit, lorsqu'il le pouvait, et il revenait sapé comme un prince.
« Vous ne vous mouillez pas trop, » commenta Alvar.
« Que faisait-il exactement ?»
Le patron entrechoqua ses bagues dans un geste expressif qui pouvait signifier « Allez au diable » comme « Dieu seul le sait ».
Il gagnait sa vie sur Internet.
Il était lié avec les autres délicats de la caravane ?
Pas que je sache.
Des amitiés, des ennemis ?
Peu de liens sociaux physiques. Il était assez proche de ses parents.
Vous le connaissiez personnellement ?
Le patron parut offusqué.
Nous sommes 374, non, 373 maintenant. Et je connais chacun par son visage et par son nom, par sa famille et par ses faiblesses. Quel patron serais-je si je ne les connaissais pas ?
Je ne sais pas. Vous n'avez pas l'air spécialement affecté ?
Quelles étaient les faiblesses de Marek Escanza ?
Il voulait quitter la caravane.
Alvar Costa enregistra l'information avec intérêt.
« Pourquoi ça ?»«
Pourquoi un délicat quitte-t-il la route ?» demanda le patron.
« Êtes-vous vraiment né de la dernière pluie ?»«
Il subissait une forme d'ostracisme dans la caravane ?»«
Évidemment. »«
La discrimination envers les délicats est passible. »«
Oui, oui, je sais, épargnez-moi le baratin. Je ne suis pas responsable de tout ce qu'ils disent et de tout ce qu'ils font.
Vous me demandez la vérité, je vous la dis. » C'était un type intelligent, avec des goûts raffinés, et il n'était pas du goût de tout le monde ici.
Il était souvent malade ?
Non, pas vraiment.
À vrai dire, on le voyait peu pendant la journée. C'est plutôt la nuit qu'il traînait parfois dehors.
Vous pensez qu'il peut s'agir d'un crime géniste ?
Le patron fit claquer sa langue dans sa bouche.
Voilà un mot qui ne fait pas partie de mon vocabulaire. Géniste veut dire...
Oui, je sais ce que ça veut dire. Un terme qu'on a inventé pour qualifier les crimes contre les délicats. Ce concept n'a pas cours sur la route.
Alvar Costa ne se démonta pas.
Vous pensez qu'on a pu le tuer parce qu'il était un délicat, parce que ses manteaux damassés ne revenaient pas à tout le monde.
Les manteaux, ce n'est pas les gènes, voyez-vous. Si on l'a tué pour son style, pour son côté solitaire, pour son désir de partir, ce n'est pas un crime géniste, selon moi. Et cela prouve bien que ce concept ne veut rien dire.
« Vous noyez le poisson, » observa Alvar. « Pensez-vous qu'il s'agisse d'un meurtre ?»«
Possible. »«
Possible, probable, évident, certain. »«
Possible, ça veut dire possible. »«
Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je fasse une enquête, alors ? La caravane risque d'être immobilisée pendant plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines. Des techniciens viendront prendre le corps, qui sera restitué à la famille dans les plus brefs délais. »«
Faites ce que vous avez à faire. »
Chacun doit toujours faire ce qu'il a à faire.
Et vous ? Moi, je sais ce que j'ai à faire aussi. »
Alvar Costa croyait voir à quoi il faisait allusion. Une enquête personnelle, des hommes de main, un tribunal nocturne qui s'achève à l'aube par une exécution sommaire, un corps qui disparaît, une vengeance consommée. Le patron, étrangement, paraissait lire dans ses pensées.
« Vous avez trop d'imagination, inspecteur Alvar Costa, » déchiffra le patron sur son badge de la police globale.
« Trop de clichés sur la route. »
« Vous avez un mot pour ça, je suppose ?»«
Oui, on appelle ça des conneries de sédentaires. »
Alvar ne répondit pas. L'entretien était terminé et sa décision s'était prise toute seule. Les prochains jours seraient consacrés à l'élucidation de la mort de Marek Escanza. Il salua le patron d'un geste de la tête et sortit de la tente. Une odeur de friture et de viande épicée flottait dans l'air lourd. C'était l'heure où les rayons du soleil couchant faisaient dans le gigantesque nuage de pollution de la City un dégradé fauve et plongeaient la route dans une brume orangée. Ce furent cette fois des vers de Baudelaire qui surgirent. Rien n'est plus doux au cœur plein de choses funèbres et sur qui dès longtemps descendent les frimas, ô blafard de saison, reine de nos climats, que l'aspect permanent de vos pâles ténèbres. Bientôt les chauves-souris allaient commencer à volter, et Alvar Costa rabattit son col malgré la chaleur. Sur le chemin qui le menait à l'interurbain, il écrasa une quatrième grenouille et jura. Quelques heures plus tard, il faisait la queue à l'entrée du Blue Note, où il avait rendez-vous avec son frère. Il faisait nuit maintenant, et un peu de fraîcheur semblait malgré tout descendre des étoiles invisibles. Devant lui, une quinzaine de personnes attendaient pour le scan intégral réglementaire. On se tenait à l'écart les uns des autres. Non que la crainte d'une attaque terroriste fût tout à fait consciente, mais les habitudes étaient là, profondément ancrées. Les Parisiens ne s'attroupaient plus, ne manifestaient plus, et ne faisaient plus la fête dehors depuis des décennies. La rue était devenue un lieu de transit froid et sans âme. Tout se passait maintenant à l'intérieur, derrière des portes blindées et des portails au rayon X. Même le lèche-vitrine était devenu une activité sous verre, même la prostitution. Alvar regardait d'un œil morne la chaussée presque déserte. Les rares véhicules électriques se déplaçaient sans bruit dans la nuit blanchâtre. L'affreuse mousse, la moisissure phosphorescente que les Parisiens traquaient partout, des murs au plafond en passant par le cuir de leurs chaussures, se répandait sur le sol et les façades. Tout à coup, il y eut un éclair silencieux. Le tonnerre très lointain ne se fit entendre que plusieurs secondes plus tard. Lorsque ce fut son tour de passer, Alvar ressentit un certain soulagement, car il avait aperçu plusieurs fourmis volantes passer à hauteur de ses yeux. C'était un soir de vol nuptial, et Alvar détestait ces soirs-là. Les fourmis fonçaient dans vos cheveux, dans vos yeux, et les crapauds envahissaient la chaussée. Le scan intégral dura presque une minute, et lorsqu'il fut avéré qu'il n'avait sur lui ni armes, ni résidus de poudre, ni animal dangereux, ni produit explosif ou viral, il fut admis derrière les portes. La musique et la fraîcheur de la climatisation l'accueillirent, ainsi que le bruit rassurant des voix humaines. Il régnait une atmosphère animée, mais tranquille, dans ce bar où la moyenne d'âge devait frôler les 65 ans. Il n'eut aucun mal à retrouver son frère Abel qui, à 21 ans, détonnait encore plus que lui au milieu de ses actifs un peu usés qui venaient se détendre ou chercher l'âme sœur d'un soir. Comme toujours, Alvar fut frappé par la beauté de son frère. Abel était beau, beaucoup plus beau que lui. Il était aussi plus intelligent, plus brillant et préféré par son père. Mais, étrangement, cela n'empêchait pas Alvar d'avoir une tendresse particulière pour lui, peut-être parce qu'il avait eu si peu le temps de connaître leur mère. « Alvar, » dit Abel en l'embrassant pour lui dire bonjour, « à chaque fois que je viens, je me demande pourquoi tu passes tes soirées ici. Tu n'as toujours pas compris. » Abel eut un petit froncement d'yeux, qui était l'une de ses expressions favorites. « Je ne vois qu'une seule explication. Tu m'as toujours menti sur ton âge et tu n'oses pas me l'avouer en face. » Alvar éclata de rire. Abel ne rentrait jamais dans des discussions trop personnelles, ne lui posait jamais de questions sur sa vie sexuelle désastreuse, et il lui en était reconnaissant. Il lui était reconnaissant également d'avoir déjà commandé les boissons. « Ou bien je cherche à te caser avec une femme mûre, » dit Alvar. Abel devint songeur et fit mine de regarder autour de lui. Il y avait quelques jeunes femmes qui accompagnaient pour la plupart des messieurs plus âgés. Et puis il y avait Sonia, la chanteuse, qui était mêlée aux clients et qui lui adressa un petit signe amical. « Tu ne veux pas m'accompagner à l'exhibit ce soir ?» demanda Abel.
Non, je me fais vieux. Ma libido se limite au Blue Note.
N'en parlons plus, dit Abel. J'ai terminé mes examens et je suis parfaitement libre jusqu'à la fin du mois.
Inutile de te demander si tu les as réussis.
Abel hocha la tête d'un air caressant. Je crois que je ne les ai pas trop ratés, dit-il.
Il savait que son frère était passé par la même formation à la World Administration Academy, 10 ans auparavant, et que la médiocrité de ses résultats ne lui avait permis que de devenir flic. À la sortie de la 3e année, c'était le rang aux examens qui déterminait votre avenir. Les premiers choisissaient leur poste entre tous, les derniers se contentaient de ce qui avait été dédaigné par les autres.
« Qu'est-ce que tu vises ?» demanda Alvar. « Je suis sûr que tu seras parmi les majors. »
L'Intelligency. Alvar but une gorgée de son whisky et attendit de sentir le liquide brûler un peu son œsophage.
« La crème de la crème !» dit-il en souriant.
« Eh oui !» Les deux frères se regardèrent avec une tendresse un peu désolée. Chacun savait que le destin d'un agent de l'Intelligency et celui d'un inspecteur de la police globale chargé des morts violentes du 37e arrondissement n'auraient presque rien de commun. « Papa va être fier de toi, » dit Alvar, avec un effort manifeste. « Ne m'en parle pas, j'en frémis déjà, » dit Abel avec humour. « La seule pensée de ces félicitations me pousse presque à renoncer à ce projet. »
Ils rirent tous les deux.
« Tu es sur une enquête intéressante en ce moment ?» Alvar songea qu'Abel était un type bien, malgré toutes ses perfections. Un type qui ne lui ferait jamais sentir sa supériorité.
« Intéressante, c'est beaucoup dire. J'ai été appelée ce matin pour le décès d'un homme sur la route. »
Les yeux d'Abel pétillèrent de curiosité. « Tu t'es déjà rendu souvent sur la route ?»«
10 fois, peut-être. C'est toujours une expérience marquante.
Pourquoi ?»«
Parce que les hommes méprisent notre façon de vivre, notre façon de penser et même notre façon de parler. »
« Le décès, c'est un meurtre ?»«
Je pense, mais je n'en ai pas la preuve. C'est un délicat qui avait à peu près mon âge, qu'on a retrouvé dans sa roulotte, un nommé Marek Eskanza. »«
Marek Eskanza, c'est un nom qui sonne bien. Tu as une idée du mobi ?»«
J'ai pensé à un crime géniste. »
Abel hocha la tête.
« J'ai hâte de faire des enquêtes, moi aussi. »«
Tes enquêtes seront certainement plus passionnantes que les miennes. La plupart du temps, je boucle les affaires en 2 ou 3 jours, ou bien je les classe. » Il n'y a rien de palpitant dans cette routine de la mort.
Abel eut un sourire triste. « Tu te déprécies toujours, Alvar. »
Ils restèrent un moment silencieux parce que Sonia venait de monter sur scène. Alvar but une longue gorgée de son whisky, et lorsqu'elle commença à chanter, il oublia momentanément tout le reste. Les fourmis volantes, son enquête sur la mort de Marek Eskanza, et son petit frère qui le dépassait, tout s'évanouit. Au profit de la voix grave, fêlée, pleine de cicatrices, qui modulait en musique une éternelle mélancolie. Alvar connaissait Sonia depuis plusieurs années. D'abord, il l'avait connue avec son homme, un musicien aux cheveux longs qui l'accompagnait à la contrebasse. Il les avait trouvés beaux, et il avait commencé à penser à elle, distraitement, de temps en temps, quand une femme croisée au hasard lui rappelait sa silhouette ou ses cheveux roux. Et puis le musicien était mort, brutalement, dans un attentat des théocrates, devant un restaurant. Il avait eu le malheur de passer par là et son thorax avait été sectionné par l'explosion. Sonia était avec lui. Elle avait vu le carnage, reçu des gerbes d'un sang aimé. Et Alvar était venu la voir plusieurs fois à la Salpêtrière, où elle était suivie en soins post-traumatiques. Depuis, Sonia était revenue au Blue Note, seule. Elle chantait avec des musiciens différents chaque soir et ses chansons exprimaient toujours la même irréparable fêlure. « The crack-up », disait Fitzgerald. C'était une fille lézardée, une fille dont la blessure n'était plus béante, mais toujours prête à se rouvrir. Sur la scène peinte en noir, devant les murs peints en noir, ses cheveux rouges dansaient comme des flammes. Un avant et plus d'après, à 20h27, le temps s'arrête. Un avant et plus d'après, sur ma ligne de vie, la fracture est nette.
« Tu crois qu'Elsée sera contente, elle aussi ?» demanda Abel, incapable de penser à autre chose qu'à son avenir.
« Non, elle sera déçue que tu ne fasses pas de sciences politiques. »
Abel acquiesça.
« Oui, c'est ce que je me disais. »
Abel ne lui demandait pas ce qu'il en pensait, lui, Alvar. Personne dans la famille ne semblait appréhender son jugement. C'était ainsi, il avait l'habitude d'être le second couteau, le confident, le médiateur. Il était le second, après tout.
« Sur ma ligne de fracture, ma vie s'arrête. » Et je recette à 20h27.
Des applaudissements clairsemés fusèrent à la fin de la chanson.
Le délicat qui s'est fait tuer, reprit Abel soudainement.
Tu as consulté son ordinateur ?
Pas encore, je dois m'en occuper demain.
Bon, tu es sûr que tu ne m'accompagnes pas à l'exhibit ?
Sûr.
Alors je file, avant que la queue soit trop longue.
Sonia venait d'entamer une autre chanson et Alvar dit au revoir distraitement à son frère.
Quand Alvar rentra chez lui, il enfila sa tenue d'immersion virtuelle et se connecta presque immédiatement au Paradict. Dans son appartement sans fenêtre, depuis la vague d'attentats à domicile, beaucoup de fenêtres sur la rue avaient été murées, l'écran de l'ordinateur constituait le seul cadre de lumière et la seule ouverture sur le monde. La mélodie d'entrée lui procura à elle seule un sentiment d'apaisement. Enfin, il rejoignait l'éternel printemps, où la lumière du soleil pleuvait toujours dorée et où les firmaments frissonnaient d'étoiles filantes. L'espace infiniment ouvert que l'on pouvait explorer en volant, à une vitesse aérienne et divine, ou que l'on pouvait arpenter lentement, les yeux ouverts à toutes les fantaisies inattendues qui fleurissaient sur la route. Le lieu où les lois terribles de la physique, de la biologie, de l'évolution n'avaient pas cours, et où l'on pouvait descendre en haut, remonter le cours du temps, nager dans la lumière et pénétrer dans des cathédrales grandes comme le rubis d'une bague. Le monde où tout ce que l'imagination collective des joueurs avait créé existait. Le monde où l'on pouvait parler avec un arbre, voyager sur le dos d'un poisson volant ou déclencher des aurores boréales en embrassant un ange. Au Paradict, on n'était jamais forcé de mourir. La morale y tenait en 3 commandements. Pas d'argent, pas de violence, pas d'informations personnelles. Alvar retrouva avec plaisir la façade sud de sa maison virtuelle. Un cottage charmant, dans le genre anglais, à moitié perdu dans la verdure et les roses trémières. Il en avait peaufiné les détails avec un soin méticuleux. Chaque brique, chaque végétal, chaque objet était son œuvre, ou le fruit d'un choix infiniment ouvert. Il émanait de ce lieu une impression paisible et pastorale. Il ne savait pas si Elina était là, et à tout hasard, il agita la clochette qui se balançait mollement à la brise de la porte d'entrée. Elina était un ange comme lui. Il l'avait rencontrée 2 ans auparavant, au cours d'une promenade dans un canyon virtuel réputé pour la majesté de ses paysages. Ils avaient fait connaissance, en anglais, car tout le monde parlait anglais au Paradict. Et s'étaient découvert d'étonnantes affinités de sensibilité et un sens de l'humour très voisin. Était-elle un homme ou une femme ? Une vieille dame coréenne ou une enfant africaine ? Il se plaisait à imaginer, dans un fantasme enfantin, qu'il s'agissait de Sonia, tout en sachant pertinemment qu'une telle coïncidence ne pouvait exister, même dans le Paradict. Ils en étaient venus très naturellement à se toucher et à partager, au fond de leur canyon désert, une expérience érotique d'une intensité stupéfiante. Les développeurs du jeu faisaient constamment, et à pas de géant, des progrès dans l'interaction sexuelle entre les joueurs. Le simple souvenir du corps virtuel d'Elina, qu'il déshabillait dans la lumière rasante d'une fin d'après-midi, de ses caresses délicates, de son visage extatique, suffisait à lui donner envie d'elle. Le désir dans le Paradict était amputé des parfums et de la chaleur, mais il lui restait les sensations tactiles, les images, et surtout son moteur le plus puissant, l'amour. La rencontre fortuite, la magie des points communs découverts au hasard d'une conversation à double sens, les émotions esthétiques partagées. Elina dormait à l'étage, dans une chambre magnifiquement meublée, éclairée par des tableaux de maître, des marines pour la plupart, et quelques ciels. Ce sommeil signifiait qu'elle était retournée à la vie réelle. Son corps virtuel attendait, paisiblement, le retour de son esprit. Alvar retira le drap pour regarder un moment son corps nu, puis il la laissa et se rendit sur sa terrasse. Elina et lui s'étaient mariés depuis 1 an, après s'être donné tant de rendez-vous virtuels qu'ils ne les comptaient plus. Ils avaient décidé de s'installer ensemble, dans une maison construite par eux, une étrange maison sans cuisine, sans toilette, sans radiateur et sans verrou. Cette union était paisible et satisfaisante, malgré le décalage horaire qui rendait parfois leurs rencontres un peu aléatoires. Mais ils s'organisaient pour se voir un peu chaque jour, et leur sexualité ne s'était jamais essoufflée. En un sens, Alvar était heureux. Mais il s'agissait d'un bonheur dont il ne pouvait parler à personne et qui s'effilochait à la manière d'un rêve dès qu'il se déconnectait et que la réalité reprenait ses droits tyranniques. Dans la chaleur humide, les sirènes de police, la paperasserie administrative et le fog permanent, Alvar se sentait décalé, infirme, inefficace. Mais lorsqu'il rejoignait le Paradict,
Il devenait Olvar, un ange puissant, créatif et libre, un ange qui partageait l'intimité d'une épouse et qui était fier de tout ce qu'il avait réalisé. Conscient que le temps filait et que ses heures de sommeil étaient comptées, Alvar décida tout de même de voler jusqu'à un lieu qu'il avait commencé à explorer hier. Un jardin de sculptures parlantes dont l'étrange poésie lui avait procuré de grandes joies et où il s'était promis d'emmener Elina. Mais il aurait tout le temps de l'y emmener une autre fois. Le temps, dans le paradicte, n'était pas de la même étoffe que le temps social. Il paraissait dilaté, suspendu, sans régularité, et son cours indolore vous faisait respirer plus largement et grandir sans cesse, sans jamais vieillir.